C'est clair.
On pourrait avoir un rythme structuré de manière tout à fait différente. Par exemple, de nous demander de dire les 10 commandements avant la tefila, ou de nous demander de dire le premier chapitre de Bréchit avant la tefila, pour identifier Dieu. Mais ça, il faut être un super théologien pour savoir de qui on parle, puisqu'on n'est plus dans le temps de la philosophie, de la prophétie. C'est clair ? Ce que je veux dire, c'est que la réponse de la tradition n'est pas du tout une donnée théologique, philosophique, un credo, mais une référence à une expérience historique. Quelle est l'implication de cela ? C'est que, premièrement, une tradition authentique ne confie jamais son message à la capacité d'intelligence philosophique de ses fidèles. Parce que c'est la chose la moins partagée au monde. Est-ce que c'est clair ? Aujourd'hui, qui peut comprendre Maïmonide ? Des spécialistes de théologie. Okay ? Au temps de Maïmonide, Maïmonide était le rabbin de sa ville. Okay ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, si il faut que je me dise qui était le lieu de Maïmonide, et que je me mette à étudier le guide des égarés de Maïmonide, et pour ça, il faut que je connaisse Aristote, enfin, des spécialités de spécialités, avant de faire la prière, il n'y aura jamais de prière. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, la tradition juive n'est pas du tout une tradition qui se base sur un credo philosophique. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, une tradition, c'est pour l'universel humain. C'est pour une expérience qui soit objective pour tous et commune à tous. Or, et ça, c'est le grand danger des religions théologiques, c'est que finalement, il n'y a que les théologiens qui font la prière, c'est pourquoi ils ne la font pas d'ailleurs. Si vous connaissez vraiment les théologiens, ils prient pas. Bon, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est clair ? Ils font du bruit avec les lèvres au moment de la prière, mais ils ne prient pas. C'est clair ? Faire la prière et prier, c'est quand même deux choses différentes. Bon, je referme cette parenthèse. Ça veut dire que la réponse n'est pas donnée du tout au niveau d'un catéchisme. Elle est donnée au niveau d'une référence unanime de l'histoire d'Israël. Qui est le Dieu d'Israël ? Celui qui s'est révélé dans l'histoire par la sortie d'Égypte. Celui-là nous a dit qu'il avait créé le monde. Mais le moment central, c'est la révélation historique. Est-ce que c'est clair ? C'est une preuve expérimentale. Alors que l'idée de la création du monde, c'est un principe philosophique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai. Mais il faut être très spécialiste pour comprendre de quoi on parle. Tandis que la référence à cette, la référence de foi à l'expérience de mémoire que cette chose impossible a eu lieu, que nous avons été délivrés de l'esclavage d'Égypte, de l'exil d'Égypte, et qu'à ce moment-là, il y a un événement qui est unanime pour toutes les identités juives, quelles qu'elles soient, c'est la référence de la communauté. Est-ce que j'ai suffisamment expliqué ? C'est clair ? Alors, voilà donc la réponse de la tradition à cette question posée par la destruction du temple. Et maintenant, quoi donner comme référence à la prière ? La réponse, le créachement, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Ça va ? Donc on a lié le rite du Kriyat Shema au rite de la Tfila. Ça s'appelle la jonction entre Geoula et Tfila. Encore une fois, je vais le dire d'une autre manière. Devant qui je me trouve lorsque je formule la demande de la prière ? Devant celui qui a sorti, sauvé Israël d'Égypte. Et donc la référence est historique. Vous aurez en fin de trimestre un séminaire sur Judas Lévi, et c'est en particulier Judas Lévi dans le Kuzari, Maïmonide aussi à sa manière, mais surtout Judas Lévi, qui a formulé cet enseignement. C'est-à-dire que la foi d'Israël se base sur la révélation qui est un événement historique et non pas sur un credo d'abord. Parce qu'un credo, ça reste hypothétique jusqu'à ce que j'en ai eu l'expérience dans l'existence. Est-ce que c'est clair ? Bon, on peut le dire de différentes manières, mais je crois que vous avez compris. Okay. Il y a aussi une deuxième raison, aussi très importante. C'est que finalement, la compréhension que je peux avoir d'un credo, d'une explication philosophique de l'existence du monde, en particulier dans ce cas l'idée de la création, finalement la signification que je peux en avoir va rester subjective. Chacun à sa manière comprend ce que ça veut dire. Tandis qu'un événement historique, c'est objectif pour la communauté. C'est le klal qui est concerné, pas l'expérience individuelle. Vous avez compris l'importance de cela, okay.
C'est quoi le klal ?
La collectivité, le klal. Par exemple, le fait que je veux dire, d'une autre manière, tout juif, quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont il se relie au problème de l'explication de l'existence du monde et les problèmes proprement religieux, spirituels, philosophiques, théologiques, et parfois il peut se relier de manière négative, est concerné par le même événement de son histoire qui est la fondation, l'événement fondateur de la nation d'Israël à la sortie d'Égypte, où il y a eu la révélation. C'est-à-dire, lorsque... Vous apprendrez ça avec le Kuzari. Lorsqu'on demande aux juifs du Kuzari, qui met en jeu différentes traditions, en qui tu crois, alors la réponse est déroutante pour tous les autres. Tous les autres commencent par dire en celui qui a créé le monde et qui tout ça, des idées. Okay? Jusqu'à ce qu'il y ait eu un événement qui vérifie cela. Et le juif répond, je crois en celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Comment? Tu ne crois pas au créateur du monde? Il dit oui, oui. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte nous a dit qu'il était le créateur du monde. Mais s'il ne nous l'avait pas dit, l'idée que le monde a un créateur, ça serait assez une hypothèse. C'est clair? C'est clair jusque-là?
Est-ce qu'il n'y a pas une idée philosophique dans le fait de dire le pays d'Égypte, c'est le pays de l'étroitesse, c'est le pays de l'angoisse?
Mais pourquoi on dit que c'est le pays de l'étroitesse, c'est le pays de l'angoisse? Parce qu'on interprète le mot Mitzrayim, hein, c'est le sens du mot. Parce que c'était le pays de l'exil. Je vais vous demander de réfléchir à une chose. Et parce que c'est un des problèmes qui nous importe aujourd'hui. Et une des données du Talmud déjà, mais qui a été reprise très abondamment par la Kabbalah. D'exil, on ne sort pas. Pas de question. D'exil, on ne sort pas. Vous avez remarqué à quel point c'est difficile pour les Juifs de sortir de l'exil quand ils peuvent, alors à plus forte raison quand ils ne peuvent pas. Le fait qu'on sorte de l'exil, c'est ça l'événement de la foi, qui va fonder la foi. En quoi ? Les Juifs croient, c'est qu'on peut sortir d'exil. Okay? Et alors, ça a des implications à tous les niveaux. L'existence, tout court, c'est un exil. On peut en sortir. C'est l'existence comme exil. Mais le fait qu'on a un événement vérificateur, la Géoula est possible. On le sait, c'est arrivé. Okay? Vous avez compris? Ça, c'est l'objet de la foi d'Israël. De quel Dieu je parle? De celui qui s'est manifesté comme Gaal Israël. Et en se manifestant comme Gaal Israël, il nous a donné un petit rendez-vous au Sinaï, il nous a dit, je vais vous raconter des choses, j'ai créé le monde. Mais l'idée que Dieu a créé le monde, si ce n'est pas lui qui me l'a dit, ça restera toujours une hypothèse. On a étudié un peu ça au début de l'année, vous y êtes? C'est vrai que Dieu a créé le monde, mais comment je le sais? De deux choses l'une, ou bien j'ai une hypothèse philosophique, et ça restera toujours une hypothèse. Il n'y a pas de preuve pour ça. C'est clair? Ou bien il me l'a dit. Quand est-ce qu'il me l'a dit? À la sortie d'Égypte. Donc je crois d'abord à l'événement de la sortie d'Égypte. Et là, ce n'est pas un objet de croyance dans le sens banal. C'est un fait de réalité historique. La fondation de la nation d'Israël dans la sortie de l'exil. J'ai pas fait exprès. Retenez bien cela. D'exil, on ne sort pas. Et vous voyez bien que c'est l'histoire qui est comme ça. C'est la réalité qui est comme ça. Bon, encore vous êtes privilégié parce que vous êtes né après qu'on est sorti d'exil. Okay? Vous êtes né avec l'existence de l'État d'Israël, après. Mais ceux qui ont vécu avant, encore la dernière génération, savent ça. On ne sort pas d'exil. Il faut un événement miraculeux, dans le sens le plus total du terme. Je vais raconter une petite anecdote. Quand j'habitais en France, j'habitais la banlieue parisienne. Et j'avais un ami qui habitait la même région, qui était un rescapé des camps, et il en était très mal rescapé, enfin il en était malade. Quoi. Et je me rappelle très bien une veille de Pessah, j'étais au marché pour acheter la salade de Pessah, et je le vois se balader dans le marché, comme ça, j'ai dit il est en crise. Donc. Alors il s'approche de moi et il me dit, monsieur Askenazi, dites-moi quelque chose. Et un peu interloqué, je me suis dit, il faut que je lui dise quelque chose qui arrive à le rassurer, le consoler, le sortir de sa dépression, etc. Et puis, voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, si on est sorti d'Égypte, tout est possible. Ah, il m'a dit, merci. Voilà, vous avez compris le... C'est-à-dire, si déjà on est sorti d'Égypte, lui, il pouvait comprendre que ça voulait dire, il sortait des camps de concentration. C'est-à-dire, si déjà on a pu sortir d'Égypte, tout est possible. C'est clair? Bon, c'est une petite anecdote en passant. Mais je vais vous donner un autre éclairage. J'ai un ami en France qui a fait à peu près les mêmes études que moi. et puis qui habite la France. Et alors, il ne peut pas s'en passer, il vient visiter Israël de temps en temps. Et alors, chaque fois, il me tombe dans les bras. « Ah, si tu savais, comme je t'envie, tu es à Jérusalem, comme je voudrais faire comme toi. » Mais qu'est-ce qui t'empêche ? Puis j'ai des problèmes. Quel problème ? J'arrive pas à vendre ma deuxième maison de campagne. Je sais pas si vous en avez... C'est authentique, hein ? Je sais pas si vous en avez... Ah bon, un rabbin qui a deux maisons de campagne, c'est bizarre. Mais enfin, c'est comme ça. C'est un rabbin français. Et alors, c'est réel ce que je vous dis là. Je ne dirai pas son nom parce que vous risqueriez de le reconnaître. Et ça se fait pas. Et alors, vous voyez, il y a des impossibilités qui arrivent à se faire tellement subtiles qu'on ne les voit même plus. Vous savez, quand quelqu'un est malade, et qui sait qu'il est malade, il y a des chances de le guérir. Mais s'il ne veut pas se rendre compte qu'il est malade, il n'y a aucune chance de le guérir. Vous savez ça, okay ? C'est clair. Donc, quand quelqu'un est dans l'exil, et qu'il ne se rend même plus compte que c'est dans l'exil qu'il est, il ne peut plus sortir. C'est fini. C'est clair ce que je dis. Bon. Mais ça vient d'un fait... réel et absolu, c'est un fait d'expérience. D'exil, on ne sort pas. Si on en est sorti, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à la sortie d'Égypte. Là, c'était l'événement fondateur. Et il y a eu révélation explicite. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Très certainement, enlevez le trait, parce que trait, ça amoindrit. Hein, certainement, nous vivons des événements plus importants, plus grands, du point de vue de la révélation, qu'au temps de la sortie d'Égypte. Mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce qu'on est des contemporains. Tout simplement. Les contemporains de Moïse ne savaient pas qui était Moïse. Ils avaient lu la Bible. Vous avez remarqué les contestations contre Moïse pendant tout le temps de... Et c'est pourtant lui qui avait raison. Et on est contemporains d'un événement qui est « il s'est passé quelque chose ». La Géoula a commencé. Les contemporains ne sont pas comme nous. Sauf ceux qui ont des yeux pour voir. Okay ? C'est clair ? Vous savez qu'il y a, en français, il y a une... expression « qui vivra, verra ». En hébreu, c'est l'inverse. « Qui verra, vivra ». Vous avez compris la différence. Alors, il y a des gens qui ne voient pas. Okay. Comme dit le verset d'Epsom, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Enfin, en 48, en 708, en 5708, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'impossible est arrivé. On sort des lignes. C'est clair ? Bon, c'est ça l'objet de la foi d'Israël. Que ça, c'est possible. C'est la preuve de tout ce dont on va croire, parce que celui qui nous a sortis d'Égypte nous a dit avec des promesses, avec des que... Ça y est, c'est clair ? Alors voilà, donc, je résume tout cela. La réponse à la question « à qui s'adresse la prière ?» nous est donnée par le lien avec le Kriyat Shema à Gaal Israël. Vous avez compris maintenant pourquoi les deux sont organisés. Ça va ? Une question ?
Pourquoi il y avait des contestations, puisqu'ils avaient entendu... Il est dit qu'ils avaient entendu les promesses de Dieu au Sinaï, et après ils ont contesté.
Je vais vous donner un exemple. Non, la question est importante. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est la clause de la liberté de l'homme. Voilà. Vous avez un homme et une femme se rencontrent, coup de foudre, le Sinaï. Okay. Et puis, trois jours après, ils se disputent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Le coup de foudre n'était pas vrai, il était vrai. Mais après, ils sont redescendus au niveau de la liberté, et là, tout peut jouer. C'est clair ? À propos de cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en peut plus exactement dans n'importe quel contexte. C'est-à-dire, on a comparé la relation du peuple juif dans la diaspora avec Israël à des fiançailles. C'est clair ? Il y a un mariage promis, on est en état de fiançailles. Alors, tant que le mariage ne veut pas se faire, eh bien, les fiançailles, c'est légitime. 2000 ans de fiançailles, imaginez. Okay. Et subitement, le mariage est possible. Et on ne se marie pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que même les fiançailles n'étaient pas des fiançailles. N'étaient pas des fiançailles. C'est-à-dire, deux fiancés qui attendent de pouvoir se marier. Ça y est, ils peuvent. Et ils ne se marient pas. C'est que même fiancés, ils n'étaient pas. C'est clair ? C'est grave ce que je vous dis là. Okay. J'ai compris. Vous n'avez pas compris ? Bon, à quoi ça ressemble ? La position des juifs de diaspora avec Israël. Ils sont les fiancés d'Israël. Bon, marie-toi. Ah non. Alors c'est que même fiancé tient. Que tu sais bien. Ok ? Puisque je parle de ça, je n'ai pas le temps de prendre un autre sujet. Et je vais vous l'éclairer d'une autre manière. Et si vous faites un... Comment on appelle ça en français ? C'est que Gallup, comme on dit en français.
Un sondage.
Si vous faites un sondage dans un quartier juif en France, n'importe lequel, elle n'est pas là, mais j'aurais dit Sarcelles. Bon. Alors vous demandez aux Juifs qui sont à Sarcelles, pourquoi vous n'êtes pas en Israël, pourquoi vous êtes à Sarcelles? Chacun va vous raconter sa vie. C'est très intéressant, mais ce n'était pas le sujet. Il va vous raconter sa vie, il va vous-même vous fonder un programme d'idéologie de Juifs de la diaspora. Okay? La vraie raison, c'est qu'il est là et pas là. Et après, il se cherche a posteriori des explications. La vraie raison, c'est qu'il n'est pas parti. Okay? C'est clair, il n'y a pas d'autre raison. Si vous faites la même enquête ici, dans n'importe quel quartier, vous demandez aux Juifs qui passent dans la rue, pourquoi vous êtes ici et pas à Sarcelles ? Chacun va vous raconter sa vie, et ce n'est pas le sujet. Chacun va vous fonder un parti israélien pour résoudre les problèmes du monde, mais ce n'est pas le sujet. La vraie raison, c'est qu'il est là et pas là-bas, et après, puisqu'il est là, il se cherche pourquoi je suis venu. Okay. Mais il n'y a pas de pourquoi. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous allez demander à des fiancés pourquoi ils se sont mariés ? Il n'y a pas de pourquoi. C'est clair ? Voilà, c'est ça le problème. C'est très grave comme problème. Okay. Ça veut dire que des fiancés qui n'arrivent pas à se marier, c'est un problème pour psychologue, pas pour rabbin, ni pour chalière de l'agent juif. Okay. C'est clair ? C'est-à-dire, M. Neyer vous dirait, d'ailleurs un soir, on vous organiserait une soirée chez lui, M. Neyer vous dirait à sa manière, un juif qui ne fait pas sa alia, c'est qu'il est malade, tout simplement, un point, mes coups d'art. C'est clair ? D'ailleurs, je vais vous dire, c'est une maladie d'un genre très spécial. Vous savez que c'est un asile ? Un asile ? Ouais. Eh bien, ils appellent la France une terre d'asile. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je n'ai pas encore très bien compris pourquoi le schéma est compris.
Voilà. La dernière phrase du Kriyat Shema lui-même, qui a pour objet d'être le rite de proclamation de foi de l'unité de Dieu, se termine par le rappel de la sortie d'Égypte. Je suis celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est clair. Après, nous avons une bracha qui parle de cela, de la Géoula. Cette bracha, c'est la dernière du Kriyat Shema. Tout de suite après, on commence là-dessus. Ça veut dire, si je me pose la question pour la tefila, devant qui je prie, la réponse est devant celui qui nous a fait sortir de l'Égypte. De là, j'ai parlé de l'exil, de la difficulté de la sortie de l'exil. Alors, c'est clair jusque-là ? Bon. Est-ce que vous avez une autre question ?
Moi, j'ai une autre question que je voulais poser tout à l'heure. Il faut remonter un petit peu loin au moment du rêve.
Oui.
Et si j'ai bien compris, vous avez dit que l'homme qui rêvait n'était pas libre parce que soumis aux éléments de la nature.
Non, je n'ai pas dit ça. Il est soumis à ses images. Et les images ne sont pas soumises aux lois de la nature. Bon, je ne vais pas vous décrire un rêve. Vous savez que c'est qu'un rêve. Bon, subitement, vous êtes devant un palmier et il devient un chameau. Okay? Subitement. Okay? Et il faut se réadapter tout de suite à la situation. On perd sa liberté. Okay? Les images ont une cohérence, une vie propre, par rapport à laquelle on n'est pas libre, précisément parce qu'il n'y a pas de structure déterminée des images, comme dans les sensations de la vie éveillée, où c'est ordonné d'après les lois de la nature, alors là on est libre. Cette analyse, on l'a déjà eue. Par conséquent, ce sont deux mondes radicalement différents.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'expérience vécue où la volonté humaine peut agir dans son rêve ?
Oui, mais c'est très rare. Et c'est des expériences très particulières. Je vous donne un exemple. Vous avez un mémoire à préparer, un diplôme à préparer. Vous avez besoin d'un renseignement dans une bibliothèque, mais vous ne savez pas où ça se trouve. Vous avez des rêves. Alors vous voyez dans une bibliothèque, en train de regarder quel livre ça peut être. Et puis vous approchez de tel rayon de la bibliothèque. Le rêve s'arrête là, il recommence, une autre fois. Et là, vous êtes en train d'hésiter déjà entre deux livres. Et puis finalement, vous avez pris le livre, vous êtes assis, vous avez lu, mais le matin, on vous revient, vous avez oublié ce qu'il y avait dedans. Mais ce sont des exercices très, très, très rares. Okay. En général, le rêve, on est plongé dans une cohérence d'images qui n'a rien à voir avec la vie réelle et dans laquelle on est privé de liberté. C'est clair ? Bon, on va s'arrêter là. Alors j'espère que...
J'ai une question.
Rapidement.
Ce que je comprends pas, c'est la position des ultra-orthodoxes ici en Israël.
Je vais vous dire, vous aurez des cours particuliers pour ça, et d'ailleurs, on vous fera venir un orthodoxe qui en parlera, de telle sorte que vous puissiez expérimenter par vous-même à quel point c'est ce que c'est. J'ai rien dit. Et je veux dire, il y a eu un temps de fidélité provisoire qui était la fidélité, le temps des fiançailles, la fidélité à une forme d'espérance de l'arrivée du Messie. Bon. Et puis avec le temps, on a oublié ce que ça voulait dire, que le Messie arrive. Okay. Et puis finalement, les événements sont arrivés et puis on les a pas diagnostiqués. On n'a pas su les comprendre. Très rapidement, la première fonction messianique, je ne parlerai pas du Messie aujourd'hui, c'est le rassemblement des exilés. Okay. Seulement, ils n'ont pas vu quelqu'un habillé de blanc sur un âne rouge arriver au cotel. Okay. Ils n'ont pas vu ça. Alors, bien qu'ils voient que les exilés reviennent, alors pour eux, ce n'est pas le temps. Okay. Seulement, il y a quand même une mitzvah dans la Torah qui vaut mieux habiter en Eretz Israël qu'à Sarcelles. Okay. Alors, ils viennent habiter ici. Mais dans une position 14 fois contradictoire et parasitaire. Okay. Ça veut dire, si ce n'était pas les sionistes, ils n'auraient pas pu être ici. Ah, mais les sionistes ont tort. Et ils ne perçoivent pas cette contradiction. Okay. Vous suivez? Bon, on verra ça beaucoup plus en détail. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il faille les blâmer. Il faut les plaindre. Okay. Ce sont des positions archaïques qui se retrouvent préhistoriques dans le temps contemporain. Je veux dire, le principe est le suivant. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une erreur de la foi. Ce n'est pas un manque de fidélité de leur part. C'est une fidélité dépassée. C'est-à-dire, ça ressemble beaucoup au cas des maranes. Les maranes ont fait serment de rester maranes jusqu'au moment où ils pouvaient devenir juifs. Bon, le temps a passé. Et alors la plupart d'entre eux, j'en ai connu beaucoup, au Portugal, en Espagne et ailleurs, le temps a passé. Et alors, ils ont des doutes. On dit, voilà, ben ça y est, maintenant, il y a Israël, tu es libre, tu peux finir d'être marane et devenir juif. Ils ont des doutes. Est-ce que c'est vrai que je peux devenir juif? Ah, et ma fidélité de marane, pour laquelle mes ancêtres et moi ont tellement peiné, je préfère rester fidèle de ma fidélité. Mais tu vois pas que le monde juif t'est ouvert, ça y est, c'est arrivé. Ah, non, je vois pas. Qu'est-ce que tu vois pas? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, une erreur dans la fidélité, c'est pire qu'un manque de foi. J'ai compris ce que vous avez dit. C'est une fidélité provisoire. Alors on reste fidèle à une fidélité devenue caduque. L'espérance des Juifs de la diaspora, c'est de pouvoir aller en Israël. Maintenant, ils peuvent. Ils se disent, mais alors, je vais perdre cette vertu d'espérer d'aller en Israël. Vous avez compris le problème? Mais ne croyez pas que je suis méchant avec eux, je suis très gentil, parce que s'il fallait être méchant, vous entendriez des choses. Ça y est, c'est clair? Donc. Bon, alors, on en parlera d'ailleurs de tout ça, je comprends que ça préoccupe.